Ray Lalonde est avec nous. Bonsoir, Ray.
Salut, Mario.
As-tu l'impression que Houston va entrer dans la Ligue nationale avant Seattle par la voie ou le chemin d'une relocalisation, en l'occurrence Phoenix? Parce que déménager Phoenix à Houston, c'est pas même affaire que déménager Phoenix à Québec. C'est moins dérangeant pour un commissaire.
C'est moins dérangeant, Mario, mais pour venir à ta première question, est-ce que ça peut arriver avant Seattle? Étant donné que la date promise pour Seattle est maintenant 2021, j'aurais tendance à te dire que un déménagement, une relocalisation, même si c'est vraiment le dernier souhait d'un commissaire, ça peut se faire littéralement dans le temps d'un été. Tu te rappelles des Thrashers d'Atlanta qui sont partis à Winnipeg?
Ben oui, ben oui. Et comment vois-tu ça, parce qu'on dirait que ça se dessine à l'horizon, là, Houston, semble-t-il, qu'il y aurait déjà eu des rencontres avec le commissaire et le responsable de la candidature de Houston. C'est un gros marché.
Oui, ben prenons d'abord le cas de Phoenix pour expliquer encore une fois que ça fait longtemps que Gary Bettman est très patient avec les Coyotes d'Arizona.
Oui.
Bon, sachant ça, les Coyotes ont eu des propriétaires différents. Ils ont eu plusieurs tentatives de prolonger des ententes avec la ville de Glendale concernant la location de l'aréna. Ils ont eu des taux et des conditions extrêmement favorables pour les aider à survivre. Ils ont eu des équipes médiocres depuis quelques années et les gens ne sont pas au rendez-vous. Pendant ce temps-là, Mario, rappelle-toi, ils ont fait un gros effort afin de signer une entente avec l'Université d'Arizona State pour la construction d'un nouveau complexe de hockey. Arizona State est en division 1 dans la NCAA au hockey depuis seulement quelques années. Alors là, ils se sont dit avec les Coyotes, peut-être qu'on peut collaborer ensemble sur la construction d'un centre qui ferait en sorte que l'équipe serait placée au centre-ville de Phoenix.
Et ça a déjà marché au centre-ville. C'était pas... Parce que Mario Gosselin était avec moi en studio cet après-midi. Mario a évolué dans la Ligue internationale à Phoenix avec les Roadrunners. Et il a habité là 6-7 ans. Et donc, quand les Coyotes sont arrivés, et avant que ça déménage en ce qu'on appelle en banlieue maintenant, il dit moi, je suis pas allé à Phoenix, mais il dit, ça fait toute la différence et il comprend pourquoi que ça fonctionne pas.
Oui, bien, c'est un peu le problème que les Sénateurs ont à Ottawa,
d'être
à Canada plutôt qu'au centre-ville. Alors, les Coyotes ont échoué dans une tentative avec les Suns de Phoenix. D'abord, ils avaient commencé leur existence à Phoenix au America West Arena au centre-ville. Puis ça avait marché, à part du fait qu'il y avait des sièges obstrués qui étaient trop nombreux. On a bâti quelque chose de très moderne à Glendale, mais on s'est rendu compte que c'était trop loin pour les gens, les citoyens qui devaient voyager après le travail. Là, on veut revenir au centre-ville. On a échoué avec Arizona State. On tente peut-être de relancer un dossier avec les Suns qui, eux aussi, cherchent un nouvel amphithéâtre. Donc, NBA, NHL ensemble, ça pourrait être une combinaison qui pourrait marcher. Mais entre-temps, M. Fertitta, qui est à Houston, qui a acheté les Rockets et le Toyota Center il y a à peu près 2 ans déjà, au coût de 2,2 milliards de dollars US, bien lui, il a toujours déclaré ouvertement qu'il serait intéressé à avoir une équipe de la Ligue nationale. Et Houston, c'est un marché très, très attirant. C'est une rivalité naturelle avec les Stars de Dallas. C'est un marché très important en termes de population, marché télévisé parmi les top 5 aux États-Unis. Alors, il faut croire que Gary Bettman, lui aussi, suit l'argent, suit le cours de l'argent. Et après Seattle, la ville la plus séduisante, à mon avis, sans aucun doute, c'est Houston. Mais est-ce que ça va se faire rapidement ou non? Ça va dépendre vraiment de la patience de M. Barroway à Phoenix, de garder les Coyotes là-bas dans des conditions difficiles. S'il perd patience, Gary Bettman va être prêt au rendez-vous.
S'il suit le cours de l'argent, va-t-il accéder aux demandes de certains de ses gouverneurs d'inclure plus d'équipes dans le format des séries éliminatoires, de passer de 16 à 20, par exemple?
Bien, écoute, Mario, c'est une autre question intéressante. Moi, j'ai fait un petit calcul rapide, là. C'est 16 équipes sur 31 qui sont dans les séries de hockey, c'est 52 %. Au baseball, c'est 10 sur 30, un chiffre facile, 33 %. La NBA, c'est 16 sur 30, 53 %. Puis la NFL, c'est 12 sur 32, c'est-à-dire 38 %. Alors, actuellement, le hockey figure déjà très bien avec la NBA, 52 versus 53 % des équipes qui participent aux séries. Mais on sait tous qu'une participation aux séries, pour un match ou deux, Mario, une première ronde, mettons deux matchs, l'équipe se fait sortir, c'est quand même 5 millions de dollars de plus en caisse. Deuxièmement, ça rajoute un intérêt important pour les matchs de février et mars, parce que là, on a plus de possibilités de faire les séries, les gens vont être au rendez-vous. Un calcul rapide, j'ai rajouté 1000 sièges de vendus de plus par match dans les 10-12 derniers matchs de la saison. C'était un autre million de dollars de plus. Rajoute à ça aussi le fait qu'il va se vendre toutes sortes de produits dérivés, de nourriture, alimentation, parking, et ainsi de suite. Puis des équipes qui ont des tarifs plus élevés. Bien là, soudainement, tu as peut-être une différence de revenus qui pourrait atteindre 10 à 15 millions de dollars de plus.
Donc, tu penses que Bettman pourrait finir par plier comme il a fait avec le gambling?
Moi, je pense qu'il va y penser. Mais je pense qu'il y a une question d'intégrité là-dedans, Mario, non plus. Il ne faut pas que ça soit quand même littéralement un cirque où presque trois quarts des équipes participent aux séries. C'est pas bon pour la compétition. Ça fait aussi durer les séries trop longtemps.
Ça fait perdre la valeur à ta saison régulière également, parce que là, elle en a de la valeur, là.
Absolument. Alors, c'est pour ça qu'il faut se poser la question. Écoute, le modèle de baseball avec des ce qu'on appelle en anglais des wild cards, les meilleurs deuxièmes, qui jouent un seul match, même un seul match, aide à garder l'intérêt plus engagé lors des dernières semaines.
Aucun doute.
Et Dieu sait que le baseball en a besoin parce que tu as souvent des équipes, Mario, qui dès le mois de juillet, et je parle du début juillet, sont pratiquement éliminées des séries. Avec 60 games à jouer.
On pourrait peut-être amener ça. Ouais, c'est intéressant, ça, Rick.
Alors, tu sais, juste un ce qu'on appelle un one and done.
Oui.
Ou un one-off. Et une équipe gagne, poursuit à la ronde suivante. Mais pendant ça-là, tu as gardé de l'espoir plus longtemps chez les partisans. Moi, je pense qu'il va le considérer. Et c'est pas juste parce que c'est des clubs comme Caroline ou les clubs faibles qui y pensent. C'est plus d'argent dans les coffres de la Ligue, tout simplement.
On va rester un petit peu dans les mêmes ligues professionnelles, mais on va juste changer de sujet. On va parler du cap salarial, des salaires, des masses salariales dans les différents sports. À commencer par la NFL, le plafond salarial a augmenté de façon hallucinante, vertigineuse, indécente, j'oserais dire, hein, depuis qu'on l'a instauré.
Oui, ben il y a eu une petite note de presse qui est sortie hier de la NFL même qui soulignait que c'était une augmentation de 40% depuis quelques années. Mais moi, je vais te dire que depuis le lancement du cap salarial dans la NFL en 1994, c'est une augmentation de 550%. Alors, on est parti de 34,6. On est rendu l'an prochain, on prévoit autour de 187 à 191 millions de dollars pour un effectif de 53 joueurs réguliers, 10 joueurs sur l'alignement de pratique. Mario, malgré ça, la NFL possède le salaire moyen le moins élevé parmi les quatre grandes ligues et seulement en avance sur la MLS parmi les cinq grandes ligues.
Aye, aye.
La NBA est autour de 6,7 millions de dollars. La Major League Baseball, 4,2. La Ligue nationale de hockey, 3,7. Puis la NFL, 3,5. Ces chiffres-là, il ne faut pas aller à la banque avec ça parce que ça évolue littéralement de semaine en semaine. Mais c'est pour te dire quand même que malgré les risques de blessures, les risques à la santé, les carrières plus courtes dans la NFL et le fait que c'est une business ultra gigantesque qui va atteindre en revenus cette année pour la Ligue 15 milliards de dollars, malgré tout, les joueurs de la NFL sont les moins payés. Alors, tu comprends que l'augmentation du cap salarial, c'est impressionnant, mais à mon avis, ce cap salarial-là devrait être encore plus élevé.
C'est au détriment des athlètes?
Au détriment des athlètes, Mario, parce que
ben oui.
ça demeure un fait qu'il n'y a rien qui passionne les Américains comme la NFL.
Ils ne sont pas milliardaires pour rien. Hein?
Ah, absolument
pas. Les propriétaires.
Pas. Et les propriétaires ont encore une trop grande portion de l'argent disponible, sachant très bien, encore une fois, je te répète, que les carrières des joueurs sont très courtes. C'est sûr que tu as des Aaron Rodgers, des Jimmy Garoppolo qui gagnent 37 millions cette année. Mario, on est d'accord qu'il y a des gars qui sont bien payés, mais tu as énormément de joueurs sous-payés.
Tu dis ça sans t'étouffer, 37 millions, le gars est bien payé.
Non, mais Mario, écoute, c'est des gars qui vendent des billets, là, les carrières, ils vendent des chandails, ils attirent les gens à la télé. Mais tu as des joueurs de ligne, tu as des linebackers, pardon, des secondaires, tu as des joueurs sur les unités spéciales, qui sont moins d'un million de dollars, c'est inacceptable.
Je peux-tu te dire une petite pensée qui a pas... Elle est gratuite, je le sais. Je suis convaincu qu'il y a bien des amateurs qui se le disent de temps en temps. Quand on entend, là, ça me donne des hauts le cœur d'entendre parler de tous ces millions-là, puis je trouve ça intéressant de le savoir, qu'on mette ça en chiffres, mais tu sais, des fois, je souhaite presque que le système implose ou explose, appelle ça comme que tu veux, que la balloune pète.
Ouais,
ça n'a aucun sens.
Mais Mario, ça n'a aucun sens. Tu as raison, mais c'est le divertissement. C'est le côté qui fait en sorte que tant que tu as des
ça va péter, Manny, oui.
Non, Mario, non. Pour les mêmes raisons qu'un acteur de cinéma qui reçoit 50 à 60 millions pour une présence dans un film, parce que son nom attire et vend des billets, les gens se déplacent pour voir des joueurs professionnels, on le sait. Est-ce que c'est ridicule vis-à-vis un Michael Kingsbury, qui est le gagnant du trophée Lou Marsh, meilleur athlète au Canada en 2018, et des joueurs de hockey qui n'accomplissent pas la moitié de ce que ce gars-là a accompli au cours de sa carrière, médaillé olympique, multiple fois champion du monde et 50 premières places dans la Coupe du monde. Mario, c'est pas comparable. Il est aussi athlète, il est aussi méritant et regarde la différence. On peut même pas le comparer parce que c'est ça qui nous rend malade. Mais parallèlement, je dois dire que les joueurs de hockey vendent des billets, les joueurs de la NFL en vendent encore plus.
Mais en même temps, là, projette-toi dans 15 ans, là. Donc, mettons, là, ça serait, on va continuer de trouver ça normal si, mettons, un joueur moyen gagne. Donne-moi un salaire qui n'a pas d'allure pour un joueur moyen dans 10 ans, exemple, dans le baseball
majeur.
15 millions, 20 millions par année. Puis là, nous autres, donc, le popcoin va être rendu à quoi? Ça va être 20$ avec du beurre, ça va être 23. Tu sais, ça peut pas, à moins que nos salaires augmentent en conséquence. C'est pour ça que je dis, ça peut pas ne pas péter à un moment donné. Je peux pas te dire la date.
Ouais, mais Mario, c'est un. Là où c'est sensible, là, c'est au niveau du consommateur, du partisan qui veut voir les matchs en direct. C'est là qu'on est rendu un peu au plafond, si on veut.
Ouais. Okay.
Là, tu as raison. Mais moi, je pense que les revenus des joueurs vont continuer d'augmenter parce que les franchises continuent de se valoriser et parce qu'on a découvert dans le numérique une autre forme de consommation.
Revenus,
ben oui, puis ces revenus-là.
Ça va juste retarder ce que j'anticipe parce que dans le fond, ils veulent pas adresser leurs vrais problèmes. Fait qu'ils vont continuer de soutenir l'enflure en trouvant d'autres sources de revenus qui un jour aussi vont se tarir. Les sources vont se tarir. Je sais pas dans combien d'années on va probablement être enterré de l'autre bord de la tourbe, mais que ça arrive. Mais je peux pas croire que ça arrivera pas.
Mais écoute, Mario, logiquement, il va y avoir une limite à tout, mais je pense pas qu'on atteigne la limite au niveau des salaires. Pas du tout.
Non, je pense que tu as raison. Je pense que tu as vraiment raison qu'on n'a pas atteint la limite. Je sais pas quand, si je garde. Je vais fouiller un petit peu. M'a frotté ma boule de cristal
Mario,
ce soir.
Mario, fais juste, en terminant, là, fais juste penser à la valeur des franchises. On en reparlera la semaine prochaine.
Mm.
Tu sais, les équipes continuent de prendre de la valeur d'année en année. Et pourtant, on trouve d'autres sources pour augmenter ces valeurs-là. Le cap salarial de la Ligue nationale, Gary Bettman a déjà déclaré que l'an prochain, ça serait à 83 millions.
C'est tout le temps qu'on a.
OK, Mario.
Désolé, merci beaucoup. C'était fort intéressant. Même si j'ai des hauts le cœur. Salut. On revient tout de suite.